De quelle place je parle? Je suis donc IEN adjointe en Haute-Garonne, je m'occupe donc essentiellement du premier degré. Donc j'essaie de conseiller l'inspecteur d'académie sur les questions du premier degré, et j'ai été pendant quelques temps inspectrice dans un secteur qui comporte aujourd'hui donc deux REP plus préfigurateurs et les deux autres qui vont le devenir. Donc ma circonscription était strictement éducation prioritaire avec, vous voyez, quatre REP plus l'année prochaine. Voilà, donc de cette place-là, j'ai compris les enjeux, travaillé avec les acteurs au quotidien. Mon premier travail a été de rencontrer les gens pour comprendre leur métier, comprendre leur réalité, pour essayer de mieux faire mon métier. Voilà. Parce qu'il me semble qu'on ne peut pas travailler ensemble, et j'estime que les cadres travaillent, on travaille tous les uns avec les autres. Et ça a été évoqué à plusieurs reprises, cette dichotomie entre les gens, ces échelles de valeurs. Je pense que ça, c'est un énorme frein au système. Et c'est, il me semble, peut-être quelqu'un d'entre vous me contredira, mais il me semble que c'est assez franco-français quand même. Dans d'autres milieux internationaux, on a cette barrière est beaucoup moins prégnante et freine moins, à mon sens. Donc j'ai eu envie d'évoquer avec vous ce que moi je ressens de ce chemin que fait cette institution scolaire dans laquelle nous sommes tous. Pour essayer de comprendre ce qu'on y fait et comment on peut s'y positionner. Voilà, l'institution scolaire se trouve aujourd'hui, à mon sens, dans une phase de transition. Vous savez que voilà, l'histoire, tout le monde la sait, hein, c'est un système très centralisé, très descendant, très pyramidal, avec des services déconcentrés, on en a parlé un petit peu hier. On a beau essayer de se défaire de ça, moi je trouve qu'on vit toujours dans cette espèce de modèle qui nous a modelé les uns et les autres et dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se défaire. Donc moi j'y mets une énergie personnelle quotidienne, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Donc, alors, cette transition, on l'a quand même entamée. On n'est plus dans le modèle bureaucratique avec une juxtaposition de cellules d'action qui travaillent à partir d'une coordination qui n'existerait que par les programmes et un recours à la standardisation et une régulation par la règle. Voilà, ça c'était le modèle ancien. On essaie un petit peu de s'en défaire. Et on voit bien que la règle, petit à petit, perd de sa capacité d'instrument de régulation. Voilà. Alors, il y avait deux choix possibles, finalement. C'est ou bien on contractualise, c'est le choix qu'a fait aujourd'hui la France, c'est-à-dire que l'autorité publique, le ministère au plus haut, définit des objectifs de formation et par les corps intermédiaires que nous sommes tous, fait pression sur les opérateurs qui sont ceux qui font, ceux qui sont auprès des élèves, et qui deviennent eux responsables des résultats. C'est un peu voilà, la façon dont fonctionne le système à tous les niveaux, parce qu'on va voir que, par exemple, il y a des dialogues de gestion au ministère, entre le ministère et les recteurs, où effectivement on va discuter de l'existant avec des indicateurs et où on va définir des cibles et donner les moyens qui vont avec. Donc ça c'est un peu le choix qui a été opéré par la France. Alors une autre version existe de ce modèle, ce passage au poste bureaucratique, c'est la version plutôt anglo-saxonne qui elle est entrée plus dans une logique de quasi-marché où on a des clients scolaires qui sont informés de la qualité des établissements et qui vont là où bon leur semble. Alors dans les deux cas, on voit bien quand même qu'il y a une affirmation de l'autonomie des établissements et d'appui sur les résultats. Donc la question qu'on a à se poser, c'est que font tous les corps intermédiaires dans ce panorama-là? Donc une redistribution des rôles entre l'autorité politique centrale et les responsables locaux. Voilà, donc les établissements, les écoles deviennent des lieux où on a cette coordination nécessaire au local, donc ce travail collaboratif nécessaire, et de construction d'un projet éducatif. C'est bien le lieu d'enseignement qui est responsable de cette question-là, qui est adossé, bien sûr, au projet national, qui a une déclinaison académique, mais qui est quand même propre à une équipe et un environnement spécifique. Moi, voilà. C'est dans ce cadre-là qu'on a invité, l'éducation prioritaire a été précurseur en la matière, parce que les contrats, ça fait un certain temps que l'éducation prioritaire l'a mis en place. Alors, on sait bien qu'il y a une notion, effectivement, de... Alors, l'effet enseignant, on le connaît sur les résultats, on connaît aussi les effets établissement, donc la recherche a déjà montré que quand il y a coopération entre enseignants, quand il y a vision commune d'un projet et une direction centrée sur la pédagogie, donc on l'a évoqué, les interlocuteurs précédents ont évoqué cette question-là, quand le chef d'établissement s'intéresse à la pédagogie, ou le directeur de l'école, bien sûr, aussi, qui, lui, souvent à la classe, donc il est moins distant de ces questions-là, mais quand on a ces trois choses-là, on a souvent les caractéristiques qui sont plus présentes, on va dire comme ça, dans les établissements efficaces. Donc on a bien là l'importance de la collaboration. Voilà, alors, cette notion de contractualisation est très visible dans le second degré, et c'est beaucoup plus complexe dans le premier degré. Donc, la volonté de donner du sens à l'action collective par les projets d'école, il date quand même d'un certain temps, et on a du mal, malgré tout, à le mettre en œuvre. Donc ça, c'est le vrai souci que nous avons, nous, cadre intermédiaire. Moi, j'estime que notre rôle, c'est, dans la mesure du possible, et peut-être tout le monde ne le voit pas comme ça, mais comment faire pour que le prescrit, comment aider les établissements, les enseignants, les écoles, à faire en sorte que le prescrit et le réaliser tendent à se rapprocher. C'est vraiment faciliter les conditions de la compréhension du prescrit, parce que si on donne du sens aux choses, peut-être qu'on a plus d'appétence à essayer d'y travailler. Voilà, donc...
Tu fais partie des gens qui pensent que dans le pilotage du premier degré, il y a un maillon intermédiaire qui manque entre cet inspecteur qui pilote 300-350 enseignants et les enseignants. Tu penses que cette disposition n'est pas très opératoire et qu'il faudrait quelque chose de différent avec des structures relais, un autre rôle pour les directeurs? Est-ce que tu peux nous préciser comment, dans cette description très précise que tu fais des évolutions du pilotage, tu insistes sur le fait que le modèle voudrait que ça soit aux acteurs qu'on donne les conditions de faire réussir les progrès. Hein. C'est bien les acteurs eux-mêmes qui sont responsables des progrès. Mais alors du coup, quelles évolutions dans le système de pilotage te semblent nécessaires? Et là encore, au risque de dire des choses qui peuvent être discutables, mais de ton point de vue, qu'est-ce qui semble être un frein dans l'évolution du pilotage pédagogique du premier degré?
Ça, c'est une vraie question, et je pense que les acteurs eux-mêmes le verbalisent, le disent. Moi, assez régulièrement, j'accueille les nouveaux directeurs d'école. Les métiers changent, les métiers sont beaucoup en évolution, et on reste sur des modalités de fonctionnement d'autrefois. On reste sur des décrets qui, à mon sens, sont vraiment obsolètes et qui mettent les personnes en difficulté. À la fois, je trouve important et intéressant et vital que les inspecteurs soient au plus près des écoles, et en même temps, ils n'y sont pas tous les jours, ils ne sont pas en proximité quotidienne. Et ça, c'est à la fois... avoir des échelons intermédiaires, si ça n'est pas créer des filtres supplémentaires pour la connaissance mutuelle des uns et des autres, oui, ça me paraît vraiment nécessaire, parce que la personne est en proximité. Quand on a de très grosses écoles dans l'éducation prioritaire, voilà, l'inspecteur n'est pas là tous les jours, contrairement au chef d'établissement. L'inspecteur du premier degré a cette double casquette d'être à la fois l'inspecteur pédagogique que représente l'IPR et, malgré tout, un chef d'établissement qui n'existe pas, outre mesure, dans les écoles. Donc cette difficulté-là, je pense que tout le monde la ressent. Alors, ce qu'il faudrait inventer, je ne sais pas, mais en tout cas, il est certain que c'est une difficulté de métier.
Tu parlais de comparaison internationale, hein, pour aller pas loin, à Genève, il y a l'éducation prioritaire, le système d'organisation est cantonal, et le canton de Genève a décidé, il y a 10 ans, quand il a réorganisé ses réseaux d'éducation prioritaire, ils ont créé des réseaux d'enseignement prioritaire, pas d'éducation, et la décision du ministre a été de supprimer les corps d'inspection, de rendre des directeurs responsables de 4 écoles, donc de créer des établissements locaux d'éducation avec des directeurs nommés directement par le ministère, et le renforcement du système d'appui de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le niveau académique de formation. Donc en gros, ils ont réorganisé leur système en disant on donne plus de pouvoir pédagogique et organisationnel au directeur d'école devenu chef d'établissement, et on renforce la collaboration entre lui, directeur d'école, et le niveau académique dans une organisation visant à donner de l'appui. Alors, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, quand tu as indiqué les comparaisons internationales, c'est en regardant d'autres systèmes fonctionner qu'on comprend que notre organisation n'est pas la seule possible.